On débobine, vie femme, ses films et ses vampires.
You are too late. My blood now flows through your veins.
Je suis Dracula. Et je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Hark, dans ma résidence.
Bienvenue dans cette dernière émission de On débobine le Fifam. Je suis toujours accompagnée de mes fidèles compagnons de micro, Gaël, Adam et Thomas. Comment ça va ?
Bonjour Colline, eh ben, ça va bien, c'est le dernier jour. Malheureusement, on ne va plus pouvoir voir de films autant qu'on veut.
Oh, c'est défaitiste.
C'est vraiment dommage.
Bah, t'as 4 places pour le ciné Saint-Leu, toi.
Bah oui, t'as gagné au quiz.
Je suis trop fort aussi.
Bah oui, c'est pour ça.
Ça va, vous, les garçons ?
Eh ben, ça va. Triste d'arrêter cette émission, mais bon, voilà, quoi.
Bah, moi, ça va, mais en fait, je suis un peu content que ça reste, parce que je suis crevé, en fait. Donc, du coup, voilà, moi, c'est toujours bien de faire un festival, quand même, pour moi.
Ok, Gaël.
Je vais pouvoir dormir, hein, voilà.
Ok, Gaël.
Eh bien, on a quand même bien travaillé, on a fait de belles rencontres, et on commence en parlant des courts-métrages, car avec Thomas, on a été interviewer les réalisatrices et le réalisateur, il n'y en a qu'un, des courts-métrages tournés dans les Hauts-de-France. Eh bien, je vais commencer avec le premier court-métrage que moi j'ai vu, et c'est le tien, Macha. Donc c'est Emma la Rouge. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Emma la Rouge et nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé d'adapter, donc c'est une adaptation du livre Tragédie de l'émancipation. Alors, on en entend parler dans le court-métrage, mais voilà, c'est autour d'Emma Goldman. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu pourquoi est-ce que tu as décidé de traiter sur ce sujet-là ? Comment est-ce que tu t'es débrouillée pour la réalisation ? Voilà, nous expliquer un petit peu ton parcours.
Alors, Emma Goldman, Emma la Rouge, donc l'héroïne de mon film, était une anarchiste et féministe de la fin du 19e et début du 20e siècle, qui a commencé à travailler aux États-Unis, qui a commencé à diffuser sa pensée aux États-Unis, puis elle a eu une vie très tumultueuse. Je me suis inspirée de l'autobiographie d'Emma Goldman, qui est très fournie, et je me suis inspirée de certains épisodes de sa vie, et notamment d'un de ses discours qui s'appelle La tragédie de l'émancipation féminine. Et l'idée pour moi était de montrer comment ce discours politique très pionnier, très, très généreux, très humain, qui m'avait beaucoup touchée, comment est-ce qu'il a émergé de son intimité, de l'intimité de cette femme qui était sage-femme pour les familles juives pauvres et nombreuses. Et elle était aussi une amante très passionnée. Donc voilà, je me suis posé cette question-là, et donc à partir de là, il y a eu la forme, l'écriture du film qui a commencé. J'habitais à l'époque à Amiens.
D'ailleurs, il y a une scène qu'on voit qui est tournée dans le centre-ville, donc dans la rue des Trois Cailloux.
Exactement. Avec une équipe des figurants amiennois et amiennoises. Une partie de l'équipe aussi qui vient des Hauts-de-France. Il m'est tout de suite paru naturel de tourner dans les Hauts-de-France puisque je vivais là à cette époque, et je crois qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'esthétique architecturale qui me parlait beaucoup. C'était une histoire qui se passe à New York, et il y avait quelque chose de très new-yorkais à Amiens dans l'architecture des amiennoises.
Alors, pourquoi ce choix de l'anachronisme ? Parce qu'il y a un anachronisme volontaire, donc la scène de théâtre ou la reconstitution de l'époque, et puis le fait qu'elle sorte dans la rue, dans les rues d'Amiens, et puis aussi à la fin, il y a un policier d'époque, et il y a un CRS du 20e, 21e siècle qui vient la chercher. Pourquoi ce choix de l'anachronisme ?
Parce que j'avais très envie de montrer à quel point la pensée d'Emma Goldman était encore actuelle aujourd'hui, à quel point il y avait tellement d'échos et de résonances dans notre société contemporaine, des choses qu'elle avait imaginées, qu'elle avait souhaitées, qu'elle avait appelées à faire à l'époque. Et je trouvais cette image intéressante d'imaginer comment Emma Goldman viendrait dans notre présent, comment elle ferait irruption dans ce présent, et quel héritage elle nous laisse à nous, femmes et hommes du XXIe siècle.
Attention, question perfide. justement, la toute fin, quand les deux policiers viennent la chercher, vous n'avez pas peur de justement que le message soit un peu brouillé, dans le sens où, vu qu'il y a un policier contemporain qui vient la chercher, qu'on donne l'impression que rien n'a évolué du côté des femmes, alors que quand même, il y a eu des avancées sociales depuis la fin du 19e siècle.
Déjà, enfin, par rapport au discours, il y a quand même des choses où, justement, je trouvais que la parole était très actuelle. La question de la rémunération, la question des femmes qui ont du mal à s'intégrer parfois dans certains corps de métiers d'hommes. Je pense que Nathalie peut peut-être en dire un mot. Mais en tout cas, la question de... d'égalité et de, entre les hommes et les femmes est encore très actuelle, et ce qui était très important pour moi de montrer à travers ce discours, c'est le message d'amour. En fait, c'est cet appel à s'aimer, ne pas s'opposer. Les hommes et les femmes sont différents, mais ne doivent pas s'entretuer pour que l'un existe à la place de l'autre. Et ce message d'amour, je l'ai trouvé vraiment très très touchant et très actuel, et il doit continuer à vivre.
Justement, Nathalie, est-ce que tu veux rebondir, toi, sur la question perfide de Thomas ? Parce que j'ai vu que tu avais un petit peu réagi, donc...
Alors, non, mais c'est marrant parce que moi, j'ai pas fait attention que les costumes étaient différents et qu'il y avait un policier donc de notre époque. Et du coup, quand t'en as parlé, en fait, ça m'a tout de suite évoqué les jeunes filles en fait qui se faisaient traîner par les policiers en manifestation parce qu'elles avaient le malheur soit de se dénuder, soit d'hurler un peu trop fort, des choses qui dérangeaient. Donc, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes choses qu'à cette époque-là, mais en tout cas, l'image est assez actuelle, quoi. Enfin, quand même.
Bon, ça me permet de faire une super transition et de passer à ton film, enfin ton court-métrage. Alors toi, tu as réalisé Une fille comme toi. Est-ce que tu peux nous présenter
Oui, c'est un huis clos dans un complexe sportif, un mercredi après-midi. Et donc, il met en scène une jeune fille de 17 ans qui termine son entraînement de boxe et qui, en fait, n'a pas envie de rentrer tout de suite chez elle parce qu'en dessous du dojo dans lequel elle s'entraîne, s'entraîne justement une vingtaine de garçons de son âge avec leur entraîneur au foot.
D'ailleurs, on se demande sur quel garçon elle va craquer. Je sais pas tout à fait clair au début du court-métrage, c'est volontaire ?
C'était très volontaire en fait, mais je sais pas si ça fonctionne très bien à l'arrivée, mais l'idée c'était que le désir en fait de cette jeune fille préexiste en fait à l'objet sur lequel il va s'investir. Et en fait de tourner ça en dérision, donc et en même temps de louer sa ténacité et son opiniâtreté à trouver malgré tout un objet sur lequel voilà, se fixer. Donc je sais pas si ça marche très bien à l'arrivée parce que je pense que ça déroute beaucoup. La narration fait qu'on cherche toujours un personnage avec un objectif, et du coup quand il remplit pas son objectif on est toujours un peu dérouté, on sait pas exactement où est-ce que l'histoire va. Enfin, en tout cas c'était une tentative, mais
On comprend en tout cas qu'elle cherche des excuses pour aller voir les garçons pour observer leur entraînement, et on a vraiment l'impression qu'elle fait son petit choix. Donc au début elle regarde, enfin, elle parle avec l'entraîneur. Après, elle va parler avec d'autres garçons. Et au final, c'est un des personnages qu'on voit pas au début, et que on se dit ah tiens, je l'ai raté celui-là. Mais du coup, oui, c'est aussi sur les premiers émois, le désir. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas.
Oui, c'est ça. Mais voilà, justement, je voulais éviter de refaire l'histoire classique où d'un désir qui se fixe sur un objet qu'on idéalise complètement, et voilà, l'histoire nous raconte qu'à la fin en gros ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, quoi. En fait, j'avais envie de montrer que voilà, c'est pas grave en fait si ça marche pas du premier coup, et qu'en fait il faut continuer,
faut persévérer,
et qu'à un moment donné on voit une opportunité là où on pensait pas qu'il y en avait forcément d'autres au départ, et que finalement c'est peut-être, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais parfois on trouve ce dont on a besoin, quoi. C'est la chanson des Rolling Stones.
C'est un peu comme ça qu'on le perçoit, le film. Eh bien, en parlant de désir, il y a un seul film d'animation dans la liste, et j'aimerais que tu nous présentes un petit peu, parce que ça peut dérouter, je trouve, de la fin notamment. En fait, c'est un film où vraiment c'est l'acceptation de soi, c'est comment on se voit. C'est comme ça que moi je l'ai perçu, je sais pas si je me trompe ou pas.
Non, tu te trompes pas. Donc en gros, le film dont on parle s'appelle Stuffed. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, au sortir d'une séance de fitness intense, encore rougie par l'effort, veut s'accorder un moment à elle dans sa salle de bain. Ce moment en question, c'est dévorer son cheat meal, à savoir une soupe de nouilles instantanée, dans son bain chaud. Mais rien ne se passe comme prévu. Incapable de penser à autre chose qu'à son apparence, à son corps, elle se lance dans un gommage punitif et fait tout tomber dans la baignoire. Catastrophe. Et là, le film prend une tournure plus fantastique. Et voire body horror-esque.
Bah justement, on voit la découverte de soi. Je pense à la scène où elle cherche la pâte. Oui. En question. Là, c'est vraiment, elle se découvre. On le voit sur son visage, que c'est vraiment une découverte totale de son intimité.
Tout à fait. Et j'avais hyper envie de le montrer comme ça. Pour moi, cette scène d'observation de son sexe avec le miroir, c'était un truc que je trouvais hyper important parce que je trouve que c'est quelque chose d'hyper vrai, d'hyper humain en fait. Enfin, et du coup, d'utiliser le chemin fantastique de la pâte qui est connectée au sexe, c'est une façon d'y arriver. Mais oui, clairement découverte de soi et voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté de vouloir briser un tabou? Parce que moi, je pense à la masturbation féminine, dont on pense que les femmes ne se masturbent pas, ou beaucoup moins que les hommes. Mais n'y a-t-il pas ce désir de briser ce tabou?
Si, tout à fait. Au tout départ du projet, c'était même la volonté. Et ça a beaucoup changé. Donc, c'est un film qui couvre d'autres thématiques que la sexualité. La sexualité est quasiment accidentelle et secondaire. En tout cas, c'est sûr que ça. Moi, j'avais envie un peu de briser un tabou par rapport au plaisir et à la façon dont on y arrive, et que la façon d'y arriver n'est pas simple et n'est pas évidente, et que pour arriver à ne serait-ce que prendre plaisir un tout petit peu sur la fin du film et se relâcher, il y a un peu des émergences de sensations comme ça à divers moments du film, mais elle doit passer par un chemin hyper difficile où d'abord c'est dégoûtant, ou d'abord elle veut s'en débarrasser, et qu'en fait, avant d'arriver à se relâcher, il y a tout un processus avant, quoi. Et que quelque part, tant qu'elle n'a pas fait tout ce chemin et qu'elle ne s'est pas un peu retrouvée au dos du mur, le plaisir ne peut pas totalement exister, ou elle ne peut pas se laisser totalement saisir.
Je passe du coup au quatrième court-métrage, qui est Paul Nord. Et donc Richard, c'est toi qui en es le réalisateur.
Oui.
Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est, ce dont ça parle?
Alors, Paul Nord, c'est un court-métrage de fiction d'une vingtaine de minutes qui raconte l'histoire d'un jeune père de famille qui est au chômage, qui est divorcé et qui a une enfant de 8 ans et qui doit accepter un job de Père Noël dans un magasin pendant les périodes des fêtes, sans quoi ses indemnités chômage vont disparaître. Sauf qu'il avait oublié qu'il avait également en parallèle la garde de son enfant, et donc il va devoir la cacher dans le magasin pour garder son job pendant qu'il va s'occuper d'autres enfants. Donc c'est un huis clos qui se passe sur une journée. J'ai tourné le film dans un magasin sur Amiens, dans lequel j'ai moi-même travaillé en tant qu'employé pendant quelques années. Et ce qui m'intéressait, c'était de parler à la fois d'une thématique du travail en tant que celle de l'affiliation, des gens qui ne sont pas forcément à leur place, dans le bon costume, dans un microcosme qui est un magasin, avec une effervescence des fêtes de Noël, ce qui peut aborder des situations assez décalées, voire absurdes, et les relations entre ceux qui travaillent et ceux qui viennent consommer. Et je trouvais que le microcosme comme ça ambiant pouvait me permettre de faire un pas de côté
donc
et de d'évoquer ces thématiques-là sur un ton léger et un peu comique. Voilà.
Du coup, comme tu as travaillé dans ce magasin, est-ce que c'est quelque chose dont toi, tu as été témoin?
Oui. Bah après, je me suis inspiré de pas mal de situations. J'ai jamais fait le Père Noël à titre personnel, mais en tant qu'employé, j'observais des situations assez absurdes, des gens qui s'en portent, ou par la fatigue des employés qui n'en peuvent plus, ou même des gens qui travaillent dans ce genre de magasin depuis un certain nombre de temps et qui se posent la question de, en fait, peut-être que j'aurais aimé faire autre chose, ou je suis pas à la bonne place, mais peut-être que c'est trop tard aussi. De réflexion autour de ça. Ouais.
Il y a un dernier court-métrage, puisque nous avons 5 personnes autour de la table, en plus de Thomas et de moi-même. Et donc toi, Emma, tu es venue présenter Pierre Papier Ciseaux, qui est une histoire très touchante, et c'est un court-métrage documentaire. Tu as voulu retracer l'histoire de ton arrière-grand-père. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu?
Ben, comme tu l'as dit, Pierre Papier Ciseaux, c'est un court-métrage documentaire que j'ai tourné sur un an presque. Ça part de ma découverte d'archives familiales, puisque donc mon arrière-grand-père, Pierre, est décédé un an avant que je naisse. Et donc son fils, mon grand-père, Jackie, m'en avait un peu parlé comme étant un artiste, en fait, mais je connaissais pas grand-chose de cette histoire. Et pourtant, j'ai vécu dans une maison où ses toiles étaient exposées, où voilà, il y avait une présence, mais dont je définissais à peine les contours. Et donc, j'ai choisi de me plonger un peu dans ses archives en me disant que mon grand-père était plutôt jeune, que je savais qu'il y avait beaucoup d'archives et je ne savais pas ce qu'il allait en advenir. Donc voilà, c'est parti un peu d'une volonté de découvrir ce travail. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu une enquête un peu sur les traces de Pierre, qui était à la fois artiste et surtout instituteur. Et c'est surtout cette partie pédagogique qui m'a intéressée pour le film. Et c'était la partie dont j'avais en fait peu entendu parler, surtout.
Bah, du coup, oui, tu l'as très bien traité. On a des témoignages. Alors, c'est pas vraiment des témoignages, mais tu as été dans une école et tu leur as montré l'étoile. Et donc, pendant tout le long du court-métrage, on les entend dire ce qu'ils pensent du tableau, mais en toute innocence, vraiment eux, avec leurs yeux d'enfant, parce qu'il était donc instituteur. Et voilà, c'était vraiment quelque chose que tu avais voulu retracer.
Mais en fait, j'avais commencé ce film du coup en pensant que j'allais juste retrouver des œuvres plastiques, donc les tableaux. Et en fait, au fur et à mesure de l'écriture, je me rends compte qu'il a fait un travail pédagogique très novateur et qui a été en fait relativement méconnu. Et en fait, je suis arrivée à un moment où j'avais donc amassé beaucoup de rush et je commence mon montage. Et là, je me dis, aïe, en fait, j'ai l'impression d'avoir deux histoires que je n'arrive pas à lier. Et en fait, c'est là qu'est venue l'idée d'aller voir des enfants, en fait, parce que j'avais besoin que mon grand-père soit entouré de personnes pour raconter l'histoire autour de lui aussi. Et ouais, je pense que d'avoir un regard enfantin sur les tableaux qu'a peint Pierre. Et dans lesquels je retrouve aussi en fait le regard qu'il avait sur les enfants et ça se voit en fait quand on voit les travaux des enfants et les travaux de Pierre, qu'il y a une sorte de dialogue et que je vois très bien qu'il s'est inspiré un peu de ce que faisaient les enfants et que en échange les enfants apprenaient un peu aussi de ces techniques et c'était un peu ce dialogue aussi que je voulais remettre en image.
C'est une sorte d'héritage en quelque sorte de ce que ton arrière-grand-père vous a légué.
Oui, je pense. Enfin, j'essaye en tout cas d'en comprendre l'actualité aujourd'hui et je pense que c'est encore d'actualité.
Eh bien, c'était court, mais très, très intéressant. Merci à vous cinq d'être venus nous présenter beaucoup. Vos courts-métrages et puis bonne continuation à chacun chacune.
Merci.
Merci.
C'était l'interview de Masha Ovchinnikova, Nathalie Den, Louise Labrousse, Richard Palme et Emma Duquet, et je vous les ai dit dans l'ordre, qui sont venus présenter leur court-métrage tourné dans les Hauts-de-France. Moi, je vous propose de passer au film que vous avez vu hier, et toi, Thomas, tu en as un dont tu veux parler.
Ça fait longtemps que j'entends parler de ce réalisateur de documentaire néerlandais qui s'appelle Johan van der Keuken, comme quoi c'était un très grand cinéaste de documentaire. Et le festival, dans le cadre de la rétrospective Filmé Seul, en a projeté un. C'est son dernier film, Vacances prolongées. Alors, Vacances prolongées, ça raconte, en fait, c'est la fin de vie de Johan van der Keuken parce qu'il se sait malade et il sait qu'il en a que pour entre 3 à 5 ans. Et il décide de faire une sorte de film testament, d'œuvre ultime. Et avec son épouse, ils se disent, vu le temps qui nous reste ensemble, allons voyager, profitons-en. Et de ce fait, ils filment ses voyages, ils filment ses vacances prolongées. Ils partent en Inde, au Bhoutan, où ils rencontrent des moines bouddhistes. Il part au Burkina Faso et au Mali. Et il retourne en Inde où il rencontre des guérisseurs qui ont des rituels assez étranges. Et il fait quelques festivals à Berlin, si je ne me trompe pas. Non, à Rotterdam. Un festival à Rotterdam et à San Francisco. Il s'en va aussi au Brésil. Donc, il filme un peu tout ça et c'est entrecoupé de séquences où il va voir son médecin, qui lui explique comment la maladie évolue ou n'évolue pas, et comment ça va, ça risque de se terminer pour lui. Et lui, ce qu'il veut, c'est absolument finir son film et régler, bien sûr, ses affaires familiales, personnelles, etc. Et c'est un film qui a beaucoup de souffle dans la mise en scène et qui a quelque chose d'assez mélancolique et qui regarde la mort en face d'une façon... je trouve pas que le film soit triste en même temps. Y a vraiment une forme de souffle épique dedans, dans la façon dont il aborde son œuvre et sa fin de vie.
Toujours dans les films qu'on a vus hier, toi, Adam, tu as été voir « En attendant la nuit » de Céline Rouzet. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ?
Du coup, pour moi, c'était une découverte parce que je l'avais loupé en salle à sa sortie. Ce fut une assez belle surprise malgré tout, malgré que ce soit un premier film de fiction un peu imparfait. Il y a des belles choses dedans, notamment sur sa dimension, à la fois il y a le surnaturel et puis il y a cette dimension un peu réaliste aussi, les deux se brouillent. Il y a une belle citation de La Nuit des Morts où elle retourne l'idée que du coup ce sont les monstres aujourd'hui qui sont les plus opprimés, ils sont devenus au fil du temps le symbole justement de discours politiques, de discours sociaux, et en fait en reprenant l'idée de la malédiction du vampire, elle en fait une idée plus médicale, et du coup c'est assez intéressant, ça l'ancre encore une fois dans un côté plus réaliste en quelque sorte.
Et on l'a eu en interview, Céline Rouzet d'ailleurs, elle a accepté de parler au micro de Radio Campus. Donc je vous propose deux choses. D'abord on s'écoute la bande-annonce et on s'écoute directement après l'interview que l'on a réalisée. Donc on était tous les trois, Adam et Thomas, pour rencontrer Céline Rouzet.
Faut absolument qu'on ait l'air les plus normaux possible.
Et les voisins ?
Tant que tu fais comme tout le monde, t'es tranquille.
Peut-être que je devrais faire directement une autre poche, moi, pour demain.
Une fois que c'est fini, tu fais disparaître la poche.
Gong, 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 gong. C'est ça.
Ok.
Gong, 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 gong. Gong, 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 gong. Gong, gong, gong. C'est plus dur que ce que j'imaginais.
T'es un peu bizarre, toi.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Regarde mon mouchoir !
Christophe, non, non. Laisse pas faire! Calme, bouge!
Ça t'a fait quoi quand tu l'es chez maman?
Je sais pas ce qui m'arrive. T'es chez moi ici. Pourquoi vous m'avez laissé vivre ça?
Pourquoi?
Où est-ce qu'on s'enfuit?
Lâche-la, je te dis!
Hors-moi.
Alors Céline Rouzet, bonjour.
Bonjour.
Tu viens présenter donc ton film En attendant la nuit, qui est sorti cette année. Première question, on va entrer direct dans le vif du sujet. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu as joué entre le réalisme et le surnaturel dans ton film, sans que ce soit pour autant exagéré. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une frontière entre les deux qui est... Qui se croisent et tu joues avec les codes du vampire sans pour autant expliquer que c'est un vampire. Et voilà, pourquoi est-ce que t'as voulu amener ce personnage de cette manière ?
Le vampire, c'est un mot qui n'est jamais prononcé dans le film, effectivement. En fait, je suis partie de l'histoire d'un garçon qui avait les symptômes, qui est comme atteint de vampirisme. Il a les symptômes du vampire. Mais le problème, c'est plus l'interprétation qu'on en fait et comment on va l'enfermer dans sa condition, comment la société va le pousser à bout et peut-être révéler une forme de violence chez lui, alors que lui fait tout et lutte énormément contre contre ses pulsions et contre une forme de... un désir pulsionnel qui pourrait être dangereux. J'ai beaucoup travaillé... ça m'importait justement que... c'est une métaphore du handicap, de la différence. Et ça, mais c'est un, comment dire, c'est quelque chose de sérieux et que j'avais envie qu'on prenne au sérieux. Donc j'avais envie qu'on croie à cette histoire, qu'on croie à ce garçon, à cette impossible intégration de ce garçon anormal, né, différent et de sa famille et à qui on fait pas de place. Parce que c'est quand même l'histoire d'un garçon qui fait peur aux gens qu'il aime, qui rêve de trouver sa place dans un monde qui lui ressemble pas et comment en fait le monde le repousse, le rejette. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup travaillé à la mise en scène, à ce qu'on décolle subtilement du réel, à créer du lyrisme, à ce qu'on soit dans un monde comme ça entre deux, mais qui, voilà, qui existe, mais on est effectivement... Il y a quelque chose de surnaturel qui plane, qui est de l'ordre de la sensation. Mais il fallait qu'on croie à ce monde. Ça, c'était important pour moi.
Bon, on le voit de toute façon qu'il a du mal à s'intégrer, notamment auprès des jeunes de la troupe qu'il rencontre. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené, car il arrive vraiment dans un lieu, pas perdu, mais vraiment un lieu où tous se connaissent. C'est vraiment une sorte de petit village où ils ont grandi ensemble, les enfants. Et on voit qu'il a du mal à trouver sa place, justement. Tu parlais de différence, tout ça. Et ça, juste, c'est quelque chose qu'on ressent. Même, on est un petit peu triste pour lui parce qu'on voit qu'il a du mal à se positionner face à ses inconnus, en quelque sorte, mais qu'il a envie d'être ami avec eux et de trouver sa place.
Bah, en tout cas, juste souhait, Philémon, c'est quand même un garçon qui a les symptômes du vampire et qui va prendre le risque de se brûler. Il se chronomètre au soleil pour avoir une chance d'appartenir au groupe. Voilà, on est avec un vampire qui va aller se prendre le risque de se brûler pour pouvoir faire avec la société, quoi. Et pour moi, ça, c'était vraiment... Ça ramène à beaucoup de gens qui vont devoir se déformer, rentrer dans le moule, se faire souffrir pour avoir une chance de trouver leur place. Et je crois que ça fait écho à beaucoup de situations voilà, pour des gens qui sont différents, qui ne sont pas dans la norme.
Surtout que c'est un jeune garçon, je ne me rappelle plus exactement.
Il a 17 ans dans le
film.
Voilà,
ouais. 17 ans.
Vous avez réalisé un premier long métrage 50 km à l'ouest du paradis. Et vous dites vous inspirer d'une histoire plus ou moins vraie, hein, d'un cas réel. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer du documentaire à la fiction ?
C'est parce que cette histoire... Bon, déjà, depuis que je suis toute petite, j'ai envie de raconter des histoires. Et c'est vrai que je suis passée par le journalisme, puis le documentaire, radio d'abord et ensuite cinéma, donc 140 km à l'ouest du paradis. Et en fait, pendant que je développais ce film, un drame a frappé ma famille, notamment mon frère, qui est né avec une différence à la naissance et qui a beaucoup subi le rejet des autres, l'injustice, et ça a fini très mal. Et donc, ça m'a rempli d'un grand sentiment d'injustice, de colère, de tristesse, et j'avais besoin d'en faire quelque chose, de raconter ça aussi pour le dénoncer. Et je ne savais pas comment le faire, parce que raconter cette histoire de façon frontale, naturaliste, ça aurait été trop dur. Et paradoxalement, en fait, le film de genre, ça permet de se mettre à distance de mon histoire personnelle, mais aussi d'édulcorer un réel qui est beaucoup plus dur que ça. Et quand bien même, ça exacerbe le drame des situations. Mais en réalité, ça édulcore le réel. Et en fait, le vampire, ça a été une évidence. Parce que donc j'étais en train de tenter l'atelier scénario de la Fémis, et donc un matin, je me suis dit, en fait, ça va être le vampire, parce que quand mon frère était petit, il voyait des vampires qui venaient dans sa chambre pour lui parler. Il était terrifié par ces monstres. Et en fait, au fil de sa vie, il s'est mis à voir tous les films de vampires qu'il trouvait. Et ce que j'ai interprété après, c'est que je me suis dit que c'était comme s'il se sentait proche de ces monstres fragiles, incompris par le commun des mortels, qui sont forcés de rester dans l'ombre. Donc dans l'ombre de la société, voilà, et dont la condition est invisible au premier regard, comme peut l'être le handicap, la folie, la dépression.
Eh bien, Céline Rouzet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci.
Alors, cette interview donc de Céline Rouzet, elle ouvre notre discussion autour des vampires, car c'est le thème quand même du FIFAM que l'on aborde enfin. Merci de mimer les dents de vampire. Vous ne le voyez pas, mais moi je suis face à des petits rigolos ce soir, hein. Vous êtes en forme, dis donc.
On peut dire que c'est une édition qui avait les crocs.
Allez, sortez vos meilleures blagues, allez-y. Allez-y, c'est le moment.
Ouais, c'était des films...
On reconnaît les mordus de films d'horreur.
Ouais. C'est pas mal, ça.
Bon, on l'aborde enfin, hein, cette thématique, quand même. Ça fait une semaine
qu'elle est là en ombre, qu'elle peine son nom.
Voilà. Et je vais enfin faire un heureux, parce que Gaël, ça y est, c'est ton moment.
Ça y est.
Qu'as-tu pensé de Blade ?
Ah, j'ai enfin vu Blade. Et c'est une bonne série B.
Voilà, ce sera la conclusion.
Non.
Quand même, hein.
C'est finalement le film qu'ils ont fait un peu en mode bon, on verra bien si ça marche ou pas. Finalement, ça a été un carton et c'est ce qui a lancé finalement sur les rails les X-Men de Ryan Singer, les Spider-Man de Sam Raimi. Enfin voilà, ça a lancé un peu le mouvement et même au-delà de ça, ça a même été précurseur d'un autre film de SF qui va arriver un an après en 89 qui est Matrix en fait. C'est-à-dire que cette dégaine un peu de manteau noir, de lunettes noires qu'a Wesley Snipes dans le film, c'est Matrix. Les scènes d'arts martiaux au ralenti, c'est clairement du Matrix aussi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment Matrix avant l'heure, quoi. Puis oui, c'est ça, mais il est incroyable. Il y a un charisme de dingue.
Ah oui, je suis d'accord.
Ah, mais puis il fait des trucs avec. Il fait des mimiques avec son visage et tout. Enfin, je trouve que c'est juste génial, quoi. Tu vois, enfin, il est à la fois drôle en même temps. Enfin, il y a un côté un peu nardesque, un petit peu, parce que ça a un peu vieilli, mais en même temps, c'est extrêmement bien fichu quand même pour l'époque. Ouais. C'est une bonne série B, franchement, mais qui sent un peu les années 90 dans ce qu'elles avaient aussi un peu de parfois un peu de nardesque, je trouve. Voilà. Donc c'est plutôt marrant. Voilà. De le découvrir, en tout cas, maintenant, c'est marrant.
Et puis ça y est, t'as enfin pu en parler.
J'ai enfin pu en parler, j'ai pu le voir.
C'était
voilà.
Vraiment un running gag.
C'était un peu un running gag. Mais
toute
pouvoir,
la semaine, ouais.
Et j'ai pu avoir le 2, du coup, de Del Toro. C'est celui que je veux revoir, moi, du coup, donc c'est ouais. Pour ça.
En dehors de Blade, qui était à cheval entre la section afro-futurisme, futurisme africain et les vampires, dans la section vampires, qu'est-ce que vous avez vu d'autre?
J'ai découvert Et mourir de plaisir de Roger Vadim, une adaptation apparemment plutôt libre de Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. C'est un film que je ne connaissais pas. Bon, c'est Roger Vadim, c'est un petit peu désuet, mais je trouve que le film a un certain charme. Il y a notamment une certaine sensualité dans la façon. J'aime bien la façon dont il filme les femmes. On voit qu'il aime les blondes. Hein. Bon, Roger Vadim, c'est Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot. On voit qu'il aime les blondes. L'actrice principale, le personnage principal, elle est blonde. Je trouve que c'est un beau film à l'ambiance plutôt éthérée, avec un beau cinémascope. Bon, la copie n'était pas terrible, mais je pense que le film visuellement il est quand même plutôt joli. Et ce fut une petite découverte dans le genre des classiques que je ne connaissais pas.
D'ailleurs, dans les films vampires, il y a une dernière sélection qui est faite aujourd'hui. Je ne vais pas parler tout de suite de la cérémonie de clôture, on reviendra dessus un peu plus tard. Hier, on a parlé de La Féline de Jacques Tourneur qui a été présenté par Myriam Rabhi dans l'émission. Donc je vous invite à retourner écouter l'émission d'hier. La séance, d'ailleurs, elle est à 14h15 au cinéma Orson Welles. Et toujours au cinéma Orson Welles, à 16h, vous avez un deuxième film qui s'appelle La planète des vampires de Mario Bava. Et Adam, je crois que tu avais un petit truc à nous dire dessus rapidement.
Bon, très rapide, parce que Mario Bava, c'est quand même un très grand nom du cinéma italien. La planète des vampires, c'est la source originelle, la racine de ce que sera Alien, The Thing. Et en fait, c'est un film, évidemment, aujourd'hui, si on le voit, ça flirte un peu avec la série B, la série Z, mais il y a un charme vraiment particulier. Vraiment, c'est un charme fou. La
ah oui.
Couleur, on voit aussi l'importance de la couleur chez Bava. Et ça passe surtout, c'est un film de dévitalisation, quoi. C'est un film en fait où les humains vont être peu à peu dévitalisés et en fait on a vraiment cet espace clos. Donc c'est un film à redécouvrir que je recommande fortement et aussi si ça vous donne envie aussi de découvrir qui est Mario Bava et surtout qu'il a été très important notamment pour le Diallo.
Si vous nous écoutez à 18h30, les séances sont déjà passées mais vous pouvez vous rattraper à 20h avec la cérémonie de clôture du Festival International du Film d'Amiens. Avec le Dracula de Francis Ford Coppola, et je crois que vous avez tous les trois un avis sur ce film.
C'est le must du must du film de vampire.
Faut pas déconner voilà. Non plus.
Ah bah si, c'est le meilleur film de vampire, y'a pas à dire.
Non. Mais bien sûr.
Je suis pas tellement d'accord. Il y a quand même Twilight qui
est en train. Il y a Anthony Hopkins qui cabotine.
Mais justement, ça qui est génial.
Il y a ce qui est fan.
Il y a un truc qui fait. Il faut genre qu'il monte sur un mec, c'est super.
C'est génial.
Il fait là, là. C'est incroyable, c'est super.
Mais il y a quand même des trous.
Et Keanu Reeves joue mal.
Bah oui,
c'est merveilleux,
comme d'habitude.
Comme d'habitude, justement, ça qui est beau, il n'a pas expression.
J'en viens quand même à me demander si j'ai bien fait de poser cette question, malgré tout, de ce que vous avez pensé de Dracula, parce que ça part n'importe comment. Hein. On voit que ça y est, hein, on est fatigué.
C'est un très grand film.
Voilà, ce sera la conclusion sur Dracula de Francis Ford Coppola. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous invite à aller à la cérémonie de clôture.
Et voilà, On Débobine, c'est déjà fini. Merci aux FIFAM de nous avoir permis de réaliser ces émissions, avec une petite dédicace à Émilie. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés cette semaine. Et merci à vous trois, chère et très chère équipe, d'avoir accepté de faire cette émission à mes côtés. Est-ce que vous avez un mot quand même sur la semaine que l'on a passée ensemble? Parce qu'on en a passé des heures ensemble.
C'était terrible.
Ah, moi, il est content de...
Moi je trouve que finalement ça rapproche un petit peu tout ça.
Ouais, ça
ces émissions, on parle chacun de nos goûts de cinéma.
Nos goûts,
voilà,
ouais,
on se juge du coup.
On va forcer à boire de la bière.
Ouais, ouais, bah, ouais. C'est vrai que c'était dur.
À consommer avec modération.
Évidemment.
Bon, allez, un peu de sérieux.
Un peu sérieux.
Bon, non, je trouve que c'était très bien. On a su tenir le rythme comme il fallait pour tenir une émission par jour. Ce n'est pas forcément évident. En tout cas, Colin, toi, tu as assuré, vu que tu as tenu l'émission à bout de bras. Tu,
merci de me lancer des fleurs.
Tu l'as fait tous les l'écrivais, tu l'as monté. Nous, on a fait les interviews et toi, derrière, tu assurais la mise en forme. Non, moi, je suis bien content de cette semaine radiophonique et cinéphilique.
Tout à fait. Ça a bien fait.
Franchement, j'ai rien à rajouter, c'est magnifique.
Bah, vous pouvez toujours me faire des compliments. Hein.
Mais oui, mais merci.
T'as tout géré.
Eh bien, moi, j'ai quand même bien aimé faire ces émissions avec vous. C'était plutôt rigolo, c'était notre rendez-vous de 20h, quand même. Et puis bon, on a été voir des films, c'était cool.
Ouais.
Les émissions, elles sont disponibles sur radiocampusamiens.fr. Merci encore à vous trois et à bientôt, car on retrouve Adam et Gaël dans Parlons Ciné à 19h. Salut à vous trois.
Salut, à l'année prochaine. Adieu, arrivederci. Ciao.
Ciao.
Au revoir.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Radio Campus Amiens.